Europe 1. Ondelat raconte la suite de votre récit.
Ce Jean-Claude Vivier habite une chambre d'hôtel minable rue Richomme, dans le 18e. Les policiers y trouvent tout un tas d'objets volés, et des munitions, et une autre arme. Mais pas de traces d'un complice. Or, ils étaient forcément deux. Alors ils se mettent à lui faire ce qu'on appelle le coup de la moquette. C'est-à-dire qu'ils l'emmènent dans le bureau du patron. Normalement, ça impressionne. En tout cas, ça en a fait craquer plus d'un. Mais lui, ça lui en prend une sans toucher l'autre. Avec ses lunettes noires, ses gants de cuir qu'il conserve même pour manger un sandwich, il continue de jouer les petits caïds arrogants. Il plastronne. Oh. En fait, moi j'ai qu'un regret. C'est de m'être fait pincer aussi bêtement. Mais sur le complice, toujours rien. Et puis la crime reçoit un nouveau coup de pouce. La chance, la baraka, ça compte dans une enquête. Un coup de fil du commissariat du 20e arrondissement.
Dites, j'ai quelque chose qui peut vous intéresser. On vient de récupérer un pistolet 7.65 de marque unique. C'est une dame qui l'a trouvé dans les affaires de son neveu. Et comme on sait que vous cherchez une arme de ce calibre, ben je vous appelle, quoi.
Autant vous dire que les gars du 36 déboulent dans l'heure dans la chambre du neveu, rue des Pyrénées, à Paris. Et c'est incroyable. Ils y trouvent un sac à main de femme, le même que celui de Nicole Dupuis. Ils seraient donc tombés par hasard sur le complice de Vivier, le second tueur du parc de Saint-Cloud. Le type est arrêté, il a une tête de chien battu. Votre nom ?
Sermeus.
Et plaie ?
S-E-R-M-E-U-S. Prénom ? Jacques.
Âge ?
19 ans.
Son pistolet 7.65 part au labo. Et lui aussi, il se couche tout de suite. Sauf qu'il joue pas un rôle comme Vivier. Il ne roule pas des mécaniques comme Vivier.
Il se liquéfie en pleurnichant.
Oui, il a tiré sur le couple dans la voiture. Mais il ne voulait pas les tuer. Il a eu peur.
Avec Vivier, on cherchait une voiture pour faire un hold-up. Alors on a vu le jeune couple qui se promenait avec leur chien. Et on les a suivis jusqu'à leur voiture. Ils sont montés dedans. La vitre était baissée. Et j'ai tiré deux balles, et après c'est Vivier qui les a achevés.
C'est un crime minable, pitoyable. Ces deux-là ont tué deux gentils gamins de 19 et 20 ans, juste pour leur voler leur voiture, et aller avec braquer un PMU. Le laboratoire de balistique appelle dans la foulée.
Les deux pistolets uniques 7.65 que vous nous avez confiés sont bien les armes du double meurtre du parc de Saint-Cloud. Hein. Aucun doute.
Merci. Il manquerait plus qu'il s'est avoué un meurtre qu'il n'avait pas commis. Reste maintenant à établir avec certitude qui a tiré et surtout dans quel ordre. C'est important puisque d'après le légiste, la première balle les blesse et c'est la deuxième qui les tue. Vivier continue de jouer les durs. Il refuse de répondre. Et Sermeus, lui, s'en tient à sa première version.
Je vous l'ai dit, on a repéré la Peugeot et le couple avec le petit chien. Et Jean-Claude, il m'a dit « vas-y, tire ». Moi, je voulais juste crier haut les mains, mais j'ai eu peur de désobéir à Jean-Claude. Alors, j'ai fait comme il a dit. J'ai tiré. Après, c'est moi qui les ai sortis de la voiture. Et c'est Jean-Claude, il les a achevés.
En revanche, Vivier le frimeur veut bien raconter la suite.
Bon, on a pris la route de Paris. C'est Servaïus qui conduisait. La caisse marche bien. Mais j'ai réfléchi. Je me suis dit qu'avec les taches de sang sur la banquette, on allait se faire repérer, quoi. Alors on a largué la chignole et on s'est partagé le pognon de la fille. Et puis on a pris le bus et on s'est séparés.
L'argent? Combien? D'après eux, dans le sac de Nicole et le portefeuille de Joseph, il y avait 2500 francs. 2500 anciens francs. Ce qui, en monnaie constante, représente 60 euros d'aujourd'hui.
Ben moi, j'ai pris 2000 balles. Et puis Sermius lui donnait 500.
Ben, normal, hein. C'est quand même moi le cerveau.
Ben, comme ça, j'ai pu me payer les clopes pour une semaine.
Ils ont donc tué les deux gamins pour le prix d'une cartouche de cigarette. Pauvre type! Avant de livrer les deux oiseaux au juge d'instruction, le patron de la crime fait monter les journalistes dans son bureau. C'était la belle époque, hein. Ou pas d'ailleurs. En tout cas, c'est impensable aujourd'hui. Clic, clac, Kodak. Sur la photo, Vivier prend la pose. Il fait le merle. Du coup, dès le lendemain, la presse qui fait ses choux gras de cette affaire se met à fouiller dans le passé des deux oiseaux. Vivier et Serméus se sont connus dans un orphelinat, l'orphelinat San Bernadette d'Odo, dans les Pyrénées, près de Navarinx, une annexe des orphelins apprentis d'Auteuil. Le soir de leur arrestation, Vivier et Serméus sont conduits à la prison Saint-Pierre de Versailles. Et le lendemain, dans le bureau du juge d'instruction. Face au juge, Vivier est comme avec les policiers. Lunettes noires, gants de pécarie, méprisant, hautain. Et Serméus est toujours au bord des larmes. Sans problème, tous les deux réitèrent leurs aveux. Le premier avec morgue, et l'autre d'une voix à peine audible. Et puis on les ramène en prison. Et à partir de là, à chaque fois qu'ils reviendront devant le juge, ce sera dans l'uniforme des prisonniers, un pantalon gris et une veste grise. Car à l'époque, en prison, on porte un uniforme. L'étape suivante dans l'enquête, c'est de tenter de cerner leur personnalité. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Qu'est-ce qui les a rendus bretzingues au point de tuer pour 60 euros? Les policiers retrouvent deux de leurs anciens camarades de l'orphelinat.
Oh ben, Vivier, ça a toujours été le chef. À l'internat, on l'appelait poubelle. Parce qu'en réfectoire, il engloutissait tout ce que les autres laissaient traîner. Même les croûtes de fromage. Même les miettes de pain. Serméus, lui, on l'appelait planche. Parce qu'il était tout maigre, et que c'était un faible. Il se cachait toujours derrière celui qui avait la plus grande gueule. Et la plus grande gueule, bah, c'était Vivier. Déjà, à Sainte-Bernadette. Vivier, il avait que le mot hold-up à la bouche. Il disait tout le temps, je veux de l'argent. Je veux voler les rupins. Il disait que c'était pas juste, qu'il n'aurait jamais sa chance.
Et ça, Vivier lui-même le reconnaîtra devant le juge.
Moi, je peux pas voir quelqu'un qui a de l'argent sans avoir envie de le tuer.
Les copains de l'orphelinat racontent que récemment, Vivier leur a écrit pour leur proposer le coup du parc de Saint-Cloud. Il voulait les embarquer dans son plan, mais eux, ils n'étaient pas chauds. Alors ils racontent que Vivier est venu les menacer.
Alors, vous marchez ou pas? Vous savez, il y a toujours deux balles pour les traîtres, hein.
Deux balles, déjà. Le premier a dit non. mais le second concède qu'il a participé au repérage des voitures dans le parc de Saint-Cloud. Et puis il s'est dégonflé. Et c'est comme ça que Vivier s'est retrouvé à faire le coup avec Sermeus. Poubelle et la planche. Le juge organise une reconstitution. Et Vivier déballe une nouvelle version. Il rajoute des détails. Et on le croit beaucoup moins que Sermeus. Parce que Sermeus, lui, il n'a jamais varié. Il a toujours dit « J'ai tiré sur eux quand ils étaient dans la voiture. Et Jean-Claude, il me disait « Allez, tire, te déconfle pas. » Mais c'est pas moi qui les ai achevés. » À la fin de la reconstitution, Sermeus raconte aussi le retour à Paris avec la voiture. Et Vivier est tout excité, qui lui demandait d'accélérer.
On pousse là un peu. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, cette caisse.
Vivier raconte aussi ce dialogue surréaliste au moment d'abandonner la 203. Quand Sermeus lui dit
« On n'aurait peut-être pas dû les tuer ?»
et que Vivier lui a répondu
« Oh, bah comme ça, ils parleront pas. »
En attendant, le juge a bouclé son dossier. Il est temps de les juger, ces deux-là. Soyons lucides, on ne voit pas comment ils pourraient échapper à la peine de mort. Le procès s'ouvre devant la cour d'assises de Versailles le 20 mars 1958. On annonce un combat de ténors du barreau. Maître Robert Planty, bâtonnier de Versailles, défendra Vivier. Et maître Albert Fournier, ancien bâtonnier, défendra Sermeus. Et dans le camp d'en face, du côté des familles des deux victimes, ils affronteront le redoutable maître Florian. La salle est pleine à craquer. 50 journalistes sont assis sur le banc de presse. Plus deux écrivaines célèbres, pas vraiment spécialistes dans la chose judiciaire, mais à qui des journaux ont demandé des articles plus personnels. Françoise Sagan et Marguerite Duras. Françoise Sagan est là pour François. C'est une idée du patron, Pierre Lazarev. Il lui a demandé de partager ses impressions. Et l'exercice s'avéra assez déplorable, car Sagan abordera l'exercice avec une légèreté indécente. Je vous lis un extrait. Tout cela commence gaiement comme une corrida. Il faisait très beau. Versailles était plus doré que jamais. Sa chronique s'arrêtera sans regret avant la fin du procès. En revanche, Marguerite Duras, elle, restera jusqu'au bout. Son regard est beaucoup moins futile. Il est beaucoup plus profond et plus politique aussi. De gauche, ça va de soi. Elle considère que Vivier et Sermeus n'ont aucune chance dans la vie, que ce sont des cancres qui seront condamnés par les premiers de la classe. Ce qui n'est pas complètement faux.
Hé, on l'atte. Tu joues les gauchistes maintenant?
Ben non. Ce n'est ni de gauche ni de droite de dire la vérité. Enfin, débuter sa vie dans un orphelinat, c'est pas de bon augure.
Les deux accusés entrent dans le box. Cheveux courts, pas de moustache. Et très vite se pose la question de la préméditation.
Monsieur Vivier, que vouliez-vous faire avec ces armes?
Bon, des hold-up.
S'ils ont apporté les armes pour tuer, il y a préméditation. Et s'il y a préméditation, il y a possiblement guillotine. En revanche, s'ils ont apporté ces armes en vue d'un hold-up, et qu'ils s'en sont servis par opportunité, alors il n'y a plus de préméditation et plus de guillotine non plus. Puis vient le tour des experts psychiatres.
Je dirais que l'un et l'autre sont affectés de débilité. Ils ont les capacités intellectuelles équivalentes à celles d'enfants de 11 à 15 ans, disons.
Et ça donne des arguments à la défense, bien sûr. Ce sont de pauvres gars qui ont grandi sans amour aucun, sans repère. Bref, ils ont des circonstances atténuantes. Est-ce que ça suffira à sauver leur tête? Pas sûr. Reste à résoudre la question centrale. Qui a tiré les deux coups de feu fatals? Depuis le premier jour de l'enquête, Sermeus dit que c'est Vivier qui les a achevés. Mais Vivier, au procès, n'assume pas. Oh, moi, j'ai même pas tiré du tout, hein. C'est Sermeus qui les a tués. C'est pas moi. Sauf qu'on croit Sermeus et pas lui. Le procès a duré 3 jours et le verdict tombe.
Jean-Claude Vivier et Jacques Sermeus sont debout dans le box des accusés. Il est 22h40, c'est l'épilogue. 3 jours d'audience, des heures d'éloquence pour atteindre à ce moment pathétique celui du verdict. Le banc de la partie civile est placé à 5 mètres du box des accusés. Sur ce banc, monsieur et madame Tarago, monsieur et madame Dépouet, les parents des victimes. Leurs yeux à tous sont rouges. Tous les quatre, dans un réflexe identique, viennent de se tourner. Ils regardent les meurtriers de leurs enfants. Chacun dans la salle fixe Jean-Claude Vivier et Jacques Sermeus. À l'exception d'une seule personne, le président Chapard. C'est lui qui, à ce moment, lit la sentence. 16 fois, les jurés ont répondu oui. Avant même que le président Chapard, qui a mené les débats avec calme, avec mesure, ait dit « Vous êtes condamné à mort », chacun le sait. Les condamnés aussi. Et lorsque la sentence est tombée, ils n'ont pas tressailli. Ils n'ont pas lancé un cri, rien. Ils ont attendu qu'on leur dise que le procès était terminé.
La mort pour les deux. Et les deux, bien sûr, demandent la grâce au président de la République, René Coty. Le 6 août 1958, on vient réveiller Jean-Claude Vivier dans sa cellule. Mais pas Jacques Sermeus, car lui a été gracié par le président. Sa peine a été commuée en prison à vie. Vivier est emmené à l'échafaud. Il a la tête tranchée à 4h08 du matin.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.